m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau accompagné de Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles qu'on ne présente plus. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, Marc. Bonsoir à tous.
Nous accueillons aussi Vendry de Hierpel. Vendry de Hierpel qu'on peut présenter comme journaliste chez Valeurs Actuelles puisque Vendry vient de signer chez nous. Félicitations, Vendry, et bienvenue. Bienvenue et dans cette
merci
émission.
Marc, merci à tous.
Et dans la grande famille de Valeurs Actuelles et François Joyer, qu'on ne présente pas aux auditeurs de Radio Courtoisie, François Joyer qui n'a signé nulle part.
Pour c'est le ça. Allez, tout de même. Je suis officiellement journaliste pour Élément. Mais...
Bravo pour la revue Élément. Pour les camarades d'Élément qu'on salue.
Excellente revue.
Qu'on salue bien évidemment. Gros sommaire pour cette émission, chers amis, puisque nous recevrons à 18h Marie Deschevalier, avec qui nous reviendrons sur une autonomisation, on peut presque dire cela comme ça, une tentative. En tout cas, d'autonomie de la région de la région Alsace qui essaye de quitter le Grand Est pour devenir pour se rapprocher finalement du statut de la Corse, pour faire simple. Mais Marie-Liesse nous en dira davantage. À 18h30, nous recevrons le politologue Jérôme Sainte-Marie avec qui nous reviendrons sur finalement est-ce qu'on revient justement à un clivage gauche-droite ou est-ce que les blocs sont encore bien en place et sont encore inamovibles. Et à 19h, nous retrouverons Laurence Trochu avec l'eurodéputée, la députée européenne la députée française au Parlement européen. Je vais y arriver. Laurence Trochu qui siège au groupe ECR. Nous reviendrons avec elle sur son dernier ouvrage, Maman, j'ai vu Jésus, aux éditions Via Romana. Un ouvrage personnel, un témoignage de foi et de ce que peut vivre une famille dans de terribles épreuves. Mais tout de suite, sujet plus léger, on a envie de dire, puisque Paris Match s'est commis dans une paparazzade. D'ailleurs, est-ce une paparazzade? On va en reparler. Jordan Bardella, qui officialise sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Un nom qui claque, j'ai envie de dire, et un nom qui fait réagir, bien évidemment, Jordan Bardella, l'enfant de Seine-Saint-Denis, au bras d'une princesse. Valentin Gore, qu'est-ce qu'on en pense?
Oh bah écoutez, j'allais dire pas grand chose, non, bien sûr, c'est un élément intéressant, la vie privée a toujours une place dans les campagnes présidentielles, on se souvient de la manière dont Emmanuel Macron avait scénarisé son couple en 2016, évidemment, bon, c'est une paparazzade, j'allais dire orchestrée, où on a du mal à croire vraiment à ce que ce soit tout à fait anodin.
Bien sûr,
et voilà, Cyril Hanouna a assuré que c'était...
La mise en pli est vraiment parfaite pour quelque chose de non préparé. Est-ce que ça aura un impact? Moi, je suis assez sceptique. Je crois que les Français sont assez libéraux pour ce qui concerne leurs hommes politiques. Ils sont, par exemple, ils n'en ont pas voulu à François Hollande lorsqu'il a commis...
D'avoir été entre deux femmes, quelque part, dans une période transitoire,
oui,
on va dire.
Je crois que les Français s'en moquent un peu, ça les amuse, ça les intéresse de regarder, de savoir avec qui ils vivent, mais je crois pas que c'est déterminant, vraiment pas.
Et avant de vous donner la parole, Vendry de Hierpel, je rappelle, chers auditeurs, qu'évidemment, cette émission est aussi la vôtre, que vous pouvez réagir par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Vous pourrez évidemment... Posez vos questions, vos observations, et évidemment, nous y répondrons en direct dans cette émission. Vendry de Hierpel, est-ce qu'on futur mariage princier en vue, alors?
Moi, je sais pas, mais en tout cas, ça doit être la folie dans les salons de coiffure en France, parce que Madame Michu adore voir des hommes politiques, savoir un peu la vie privée des hommes politiques. Et je crois que, en fait, ça s'inscrit complètement dans cette stratégie que Jordan Bardella adopte depuis quelques temps, avec la publication de 2 livres en 1 an et demi. Voilà, il veut se faire connaître des Français. Il a toujours été plutôt sceptique à l'idée de montrer sa vie publique et de l'exposer réellement, publiquement et médiatiquement. Et là, on voit bien que, effectivement, il rêve de présidentiel, donc ça fait toujours mieux d'être en couple, ça apporte de la stabilité. On a envie de montrer que voilà, on est, et puis un peu un côté sexy, voilà, et je crois que ça vient, on sent bien que c'est assez mis en scène, hein, les photos, on va pas se leurrer, et je crois que les Français le savent, Enfin voilà, la stratégie est bonne sur la communication parce que il a laissé passer une vidéo sortie de 200 ans du Figaro de 40 secondes quelques semaines après voilà le point d'orgue il fait la une de Paris Match, donc pas très étonnant en soi.
Très bien, François Devoyer sur ce sujet.
Écoutez, Vendrell de Guerpel parlait de Madame Michu et voilà des classes populaires qui peuvent avoir une fascination pour la monarchie, parce que finalement, on regrette tous d'avoir décapité un roi dans ce pays, c'est très étonnant.
En tout cas, ça obéit au même réflexe pour vous, c'est plus vraiment une fascination, on va dire, pour les dynasties, plus qu'une la pipelisation de...
Ah, moi, je trouve que c'est davantage pour les dynasties, et c'est en cela, bien entendu, les hasards de l'amour, mais cela tombe bien très bien, parce que je pense que réellement, cela parle aux Français. J'étais fasciné par l'émulation française autour de la mort de la reine d'Angleterre, par exemple, du couronnement du prince Charles, enfin du roi Charles III. Ça m'a toujours interpellé. Là, en l'occurrence, on a une duchesse de Calabre et de Palerme. Ça sonne tout de même bien. Décidément, l'influence italienne sur la vie politique est importante, puisque Vincenzo Sofo, le mari de Marion Maréchal, lui-même vient de Calabre.
C'est la deuxième personnalité politique à aller chercher l'amour en Calabre.
Et je pense qu'il a très peur, parce qu'on risque d'annexer la Calabre si Jordan Bardella est
élu. Il y aura peut-être des questions de dot qui vont se poser.
Voilà, ça va devenir très compliqué, toute cette affaire. Non, plus sérieusement, rappelle tout de même, c'est j'adore les hasards de l'histoire qui ne se répètent pas, mais qui bégayent. Alors, il y a eu une reine des Français qui portait ce nom de ce beau nom de Bourbon des Deux Siciles. C'était la reine de Louis-Philippe.
La reine
Émilie. Premier roi bourgeois, le roi qui rassurait les notables. Alors, est-ce que c'est un message envoyé à travers l'histoire? Et puis, alors là, un petit le saviez-vous, parce que je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie sont friands de culture générale. Je me suis demandé pourquoi les deux Siciles, parce qu'il n'y a qu'une seule île. Bien, ça vient des vêpres siciliennes en 1282. Et à ce moment précis, le royaume qui auparavant allait de Naples jusqu'à l'île de Sicile, c'est divisé en deux. Et ils ont continué chacun à s'appeler la Sicile, puisque les Aragonais estimaient que c'était toujours la Sicile et que les Angevins, à l'époque, eux sur l'île, considéraient que c'était bien le royaume de Sicile. Donc voilà pourquoi les deux Siciles.
Et bien grâce à François Devoyer, vous pourrez tous briller à table.
Exactement.
Briller à table, et d'ailleurs je m'en priverai pas d'ailleurs.
N'hésitez pas.
Parce que vous m'avez appris quelque chose. Je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit là, sur la filiation, on va dire indirecte, avec Louis-Philippe, le roi bourgeois. En même temps que l'on obtenait cette information via Paris Match, on a appris aussi que Marine Le Pen dînait notamment avec Bernard Arnault et avec la plupart des grands patrons, des grands capitaines d'industrie français. Ça aussi, c'est un signe d'un rassemblement national qui continue son opération séduction vis-à-vis des grands patrons, Valentin Gore.
Oui, alors tant qu'à parler de Louis-Philippe, on pourrait parler aussi de son premier ministre, Guizot, et son fameux mot d'ordre « Enrichissez-vous ». Alors est-ce que ce sera celui de Marine Le Pen et de Jordan Bardella
et du Rassemblement
général et du Rassemblement national en général, on verra. C'est certain que c'est une césure dans l'histoire de ce parti, être reçu à la table de Bernard Arnault, entre autres, puisque si j'ai bien compris, il y avait aussi beaucoup d'autres grands patrons. Et ça montre aussi un changement de regard, à mon avis, d'une grande partie du patronat français, qui a par exemple regardé, plutôt avec les yeux de Chimène, le début de la présidence Trump, en tout cas pour la partie économique et libéralisme économique. Je ne parlerai pas au-delà, mais je crois que c'est vraiment une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de ce parti qui revient quand même d'un ostracisme complet il y a encore 10 ans.
Jordan Bardella en une de Paris Match, Marine Le Pen à table avec Bernard Arnault. On peut dire que ça y est, le RN est devenu un parti comme un autre, Vendrell de Guerpel.
Justement, je crois que... Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir et de faire le rapprochement entre toute une génération. Je pense à Jordan Bardella, Sarah Knafo, Alexandre Devecchio, qui sont des gens qui sont issus de l'immigration, issus des banlieues, et qui arrivent à monter dans les et d'avoir leur place dans les sphères parisiennes et influentes. Et on sent bien que dans cette génération, il y a une envie d'en être, en réalité.
Parce que les Lucien Rubempré qui ont réussi,
quand on était de droite il y a 20 ans, on était un peu mis de côté, ostracisés, etc. Et ben, ce que vit Marine Le Pen, je pense que c'est la même chose, mais cette fois-ci avec les milieux économiques. Et je crois qu'elle prend sa revanche, en tout cas elle donne une belle revanche pour le Rassemblement National et le Front National qui l'était à l'époque.
En tout cas, on a, si les indiscrets sur ce dîner qui ont fuité sont vraies. Elle aurait commencé en tout cas par un long discours assez libéral, perçu comme assez libéral par les personnalités présentes, et dans le, au cours des discussions, certains sont un petit peu revenus en disant qu'elle avait tout de même un point de vue très étatiste. On ne peut pas se transformer en Javier Milei en deux coups de cuillère à peau, quelque part, François Loyer.
Bah écoutez, moi, ça me rassure plutôt.
Ça prouve qu'il y a un cap et une ligne.
Je vais formuler un vœu pieux. En fait, ce qui me gêne, c'est que ces gens-là étaient venus pour auditer Marine Le Pen. Tout comme les dinos, ils reçoivent les uns ou les autres, qui fuitent d'ailleurs parce qu'ils le veulent bien. On avait su la rencontre, le dîner entre Pinault et Jordan Bardella, et ainsi de suite. Enfin voilà, on égrène petit à petit ces rencontres. Et ensuite, souvent, par fuites organisées, ils donnent leur avis, donnent les points, les lettres. Alors voilà, il était bien sur tel sujet, etc. Et en fait, je trouve ça littéralement insupportable. Parce que si c'est pour que ces gens-là continuent à tirer les ficelles qu'ils ont tirées depuis tant d'années...
Avec le succès qu'on leur connaît.
Avec le succès qu'on leur connaît. Ben, c'est pas la peine de voter RN. Moi, je pense que Marine Le Pen en a bien conscience et qu'elle est, justement, c'est peut-être la seule personnalité aujourd'hui à pouvoir tenir tête à ces gens. Et je souhaite de tout cœur qu'elle continue à leur tenir tête parce que, dans le passé, ce type d'adoubement n'a pas été franchement efficace. On pense à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy avec Bolloré. Enfin, chacun a eu son grand patron ou ses quelques grands patrons. Et bien, ces gens sont très brillants. Moi, je ne fais pas du tout la chasse aux grands patrons. C'est très bien dans le domaine économique. Mais chacun son camp. La politique est un métier. Et si on vit en démocratie, ce ne sont pas ces gens de décider de donner les bons ou les mauvais points et ensuite de faire infuser ces notes dans leurs différents médias, puisque ce sont aussi eux, pour beaucoup, qui possèdent les groupes de presse.
Alors, on a vu, moi, ce qui est intéressant aussi, c'est la position de Bernard Arnault dans tout cela. On a vu Bernard Arnault assister à l'investiture de Donald Trump, qui était déjà un premier marqueur un petit peu, on va dire, un petit peu osé de sa part. Deuxièmement, Bernard Arnault on l'a connu pendant des décennies sans prise de parole publique, en tout cas ne s'essayant pas à marquer l'opinion. Et là, on le voit de plus en plus. Alors, sans doute en raison d'un divorce aussi politique avec Emmanuel Macron, on l'a vu de plus en plus prendre la parole et quelque part politiser la parole des grands patrons. Est-ce qu'il faut voir ça comme une volonté de passer outre, on va dire, l'Élysée ou Matignon, s'apercevant peut-être de la médiocrité de ces gens? Est-ce que c'est une réaction suite à un discours ambiant de la France insoumise qui est en train de monter une partie de l'opinion contre les grands patrons? À quoi il faut attribuer cette prise de risque, en fait, on peut même le dire, de Bernard Arnault dans le débat politique, dans le débat public, vendredi de Yarpel?
Moi, je pense sincèrement que ces grands patrons, ils se battent pour leurs intérêts. Et ils y voient aussi leur intérêt parce que de se rapprocher de la droite ou de la droite dure, comme certains l'appellent, ou du Rassemblement National, c'est tout simplement parce qu'il y a 40% des électeurs aujourd'hui qui votent à droite. Donc ces patrons ne peuvent pas se priver d'un tel nombre de gens qui votent pour ces partis-là. Donc ils sont obligés de leur parler. Et ensuite, effectivement, on a oublié de le dire, mais François Durvy, qui était chez Pierre-Edouard Sterrin, qui est arrivé...
Qui était le directeur général d'Otium, absolument.
Exactement, ouais. Qui est arrivé chez Marine Le Pen. Là, on sent bien sa patte aussi. Une semaine ou deux semaines après son arrivée, Marine est déjà en train de dîner avec les grands patrons. Donc voilà, je pense que même si Marine Le Pen en a conscience... D'ailleurs, en fait, dans le dernier livre qui est sorti sur Marine Le Pen, que je vous invite à lire, elle explique très simplement que, par exemple, un Vincent Bolloré n'a pas le même agenda et les mêmes objectifs que Marine Le Pen. Et ça, elle en a complètement conscience.
Tout à fait.
Valentin Gore, là-dessus.
Oui, bien sûr, je partage ce que Vendry vient de dire, et également ce que vous avez dit, François Devoyer, sur le thème qu'il faut quand même effectivement maintenir une distance, notamment en France. On a parlé de libéralisme, évidemment, qu'il faut faire souffler un vent de libéralisme sur la France, mais il faut aussi faire attention, parce que la France, c'est quand même un pays qui est structuré autour d'un État, et un État qui doit demeurer impartial vis-à-vis de ses puissances, hein, ce qui signifie absolument pas de s'ériger en opposition, mais qui qui doit quand même demeurer dans une forme de neutralité. Néanmoins, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle pour Marine Le Pen, parce que vous l'avez dit, elle a un certain caractère. Je crois pas qu'elle se laissera utiliser, et je crois que c'est très bien pour elle, parce qu'elle peut jouer sur toute la palette, elle est capable d'être dans les dîners du Triangle d'Or, et elle est en même temps, évidemment, tout à fait à l'aise dans sa circonscription à Hénin-Beaumont. Donc ça, c'est une force pour ce parti qui, jusqu'ici, était quand même rangé uniquement dans les marges. Donc c'est bien de savoir jouer sur toute la palette, évidemment.
François Devoyer.
Oui, je rejoins tout à fait ce que disait Valentin Corre. Effectivement, malgré tout, très bonne nouvelle pour le Rassemblement National, avec la prudence qu'il faut avoir vis-à-vis de ces personnes. En particulier, ils peuvent parfaitement faire preuve de revirement d'ici la présidentielle. Là, ils tâtent le terrain. On va bien voir quel sera leur comportement à voir avec Édouard Philippe ou d'autres candidats. De toute façon, par principe, ils sont opportunistes. Donc, voilà, ne misons pas sur eux.
On parlera du reste de la classe politique, bien entendu, à 18h30 avec le politologue et sondeur et également patron, on peut le dire, de la formation au sein du RN, Jérôme Sainte-Marie. Pour l'heure, il y a un sujet qui est lui aussi très important et qui est malheureusement peu traité par les rédactions, c'est celui des enfants, de la natalité. On a entendu ce cri d'alarme d'Edouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, répondant au député UDR Bartholomé Lenoir lors des questions au gouvernement, en signalant que d'ici 2035, si rien ne bouge en termes de natalité, plus d'un million et demi d'enfants d'écoliers en moins dans les écoles. Il parlait justement des suppressions de classes et de la réorganisation. Finalement, on en revient toujours au même point, la natalité, angle mort de la République, François Devoyer.
Oui, angle mort. La question, c'est est-ce qu'on va prévoir correctement les choses ? Est-ce que ce sera l'occasion de restructurer l'éducation nationale ? De toute façon, on n'a quasiment aucune capacité d'action sur la natalité elle-même. La Hongrie l'a prouvé, l'Italie également. En Hongrie, la natalité a encore diminué.
Les discours qui disent qu'il faut resanctuariser les allocations familiales, etc., pour vous, ça suffit, pour vous,
totalement insuffisant. Ça va
à la marge. Ouais.
Ça changera même de manière très marginale. La question, c'est comment va réagir l'éducation nationale, puisque là, est-ce qu'on va en profiter simplement pour faire des économies, dégager des profs dégraisser le mammouth, ou est-ce qu'on va en profiter pour restructurer ?
C'est bon à prendre aussi.
Voilà, ce serait pas mal, mais sauf que je vous parie qu'il y aura un ratio entre les économies réalisées et la diminution du nombre d'élèves qui ne sera pas du tout en cohérence. Et l'idéal serait tout de même d'en profiter pour une vraie table rase, un audit de l'éducation nationale, réfléchir toutes ces dérives et surtout son inefficacité dramatique. Là, on a un niveau en maths qui est démoli. Sur tous les plans, je veux dire, elle échoue aujourd'hui. C'est l'occasion peut-être d'une grande réforme, d'une réforme courageuse. Je pense que le prochain président de la République a intérêt à bien choisir son ministre de l'Éducation nationale.
Oui, ça y est dingue, Valentin Gore, parce que quand on compare les effectifs de l'éducation nationale en France par rapport à nos voisins européens, on s'aperçoit qu'en fait, on a largement assez de professeurs, on a largement assez de personnel, mais qu'on reste quand même en queue de tous les classements PISA. Comment expliquer cela ? On peut parler, il y a sans doute la question du niveau des professeurs, est-ce qu'il y a une question aussi peut-être de système scolaire ? À quoi on peut attribuer cette incapacité de la France en fait à former des élites, pour le dire crûment ?
Non, je crois que vous l'avez dit, c'est d'abord le niveau des professeurs, c'est une forme d'idéologie qui accourt au-delà du niveau, d'idéologie quand même de gauche dans l'éducation nationale. Et de ce point de vue, vous avez cité le ministre de l'éducation nationale dont personne ne parle, parce que personne ne s'intéresse à ce gouvernement, le cornu.
Mais ça sert à rien, tout le monde se dit,
il sera parti
dans 15 jours.
Je dois dire que ce monsieur Édouard Geffray, qui ne m'a pas l'air totalement de gauche, pour être tout à fait honnête, me déçoit en bien, comme disent les Suisses. L'appel que vous dites sur la natalité, c'est très intéressant. C'est la première fois, à mon sens, qu'un ministre ose comme ça poser la question. Il fera sans doute pas grand-chose.
Et surtout, leur ministre à la tête d'un des ministères les plus à gauche de la 5e République.
Et j'ai pu remarquer qu'il compte également faire distribuer en fin d'année les métamorphoses, je crois, à tous les élèves de CE1, les métamorphoses d'Ovid. Donc c'est plutôt un bon point. Vous parlez du nombre de professeurs. Alors évidemment, il y a des endroits où il faut clairement dégraisser le mammouth. Mais en même temps, quand on voit dans les zones rurales, comme on dit en langage administratif, je voyais ça dans le Doubs il n'y a pas très longtemps, où un maire, de façon tout à fait ironique, a décidé de faire inscrire dans l'école maternelle de son village 5 génisses, pour tenir le ratio qui fixe à 35 le nombre d'élèves pour constituer une classe de maternelle dans ce cadre de la ruralité. Donc c'est vraiment une erreur, parce que il faut aussi s'appuyer sur cette ruralité qui, elle, a déjà connu la désertification et dont on se rend compte que quand on veut bien garder ces écoles ouvertes, souvent les élèves ont de meilleurs résultats qu'ailleurs.
Henri de Garpel.
Oui, je souscris. Et puis, effectivement, il y a deux sujets, celui de la natalité. Le sujet de la natalité revient très régulièrement dans l'actualité, notamment au moment de la réforme des retraites, parce que la baisse de la natalité faisait qu'on se retrouvait avec une génération de boomers qui coûtait extrêmement cher à l'État et qui continue de coûter extrêmement cher à l'État. Et parce que, effectivement, tous les ans, eh bien, effectivement, il y a les sujets de l'avortement, etc., où il y a quand même 250 000 avortements par an. Et on fait importer aussi une immigration, 400 000 ayant droit en réalité, qui arrive sur notre sol tous les ans, si ce n'est plus. Donc déjà le sujet de la natalité, ensuite celui de l'école, effectivement, il faut une refonte totale de l'éducation nationale, et je crois d'ailleurs que les pessimistes là-dessus ont tort, ceux qui veulent et croient qu'au contrat, à l'école hors contrat, et je trouve qu'ils ont tort, parce que l'école publique est quand même une vraie réussite. Aujourd'hui, effectivement, cette réussite est complètement dévoyée par manque de courage et aussi du fait de l'idéologie qui est en place depuis longtemps, et aussi par le niveau des professeurs, on en a parlé. Je suis sidéré de voir, moi, à chaque fois, des témoignages de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, qui deviennent professeurs en même pas 2 semaines parce qu'ils ont fait juste un entretien avec le professeur.
Les postes contractuels, oui, absolument.
Qui n'ont aucune formation et qui n'ont jamais été devant une salle de classe. Donc forcément, comment est-ce que vous voulez tenir des salles de classe? Donc je comprends aussi ceux qui veulent qui veulent mettre leurs enfants dans le privé ou dans les écoles hors contrat.
C'est tout le paradoxe, on n'a jamais on a un ratio de profs très élevé par rapport aux autres pays européens et on est en manque de profs. En tout cas, on a un ratio de personnel de l'éducation nationale.
Voilà, c'est ça,
est-ce qu'on souffre encore une fois là aussi, Valentin Gore, d'excès de bureaucratisation, tout simplement?
Ah bah bien sûr, bah ça c'est certain. On parlait du mammouth.
Alors, question un peu rhétorique, je vous l'accorde.
Non, mais si, c'est tout à fait intéressant. Le mammouth, dégraisser le mammouth, c'est Claude Allègre, le ministre de l'éducation nationale de Lionel Jospin, qui était quand même à l'origine un chercheur, quelqu'un du monde scientifique, et qui, lorsqu'il a prononcé cette expression, osé prononcer cette expression, s'est pris une volée de bois vert et a été rappelé à l'ordre par son premier ministre, Lionel Jospin, qui lui a dit « Tu peux pas dire ça, tu comprends, les profs, c'est nos électeurs, attention, ces choses-là ne se disent pas. » Et finalement, à force de mettre les choses sous le boisseau, parce que la gauche, évidemment, n'a pas voulu aller contre ses électeurs, et la droite, comme très souvent, lorsqu'elle s'installe dans des ministères de gauche, que ce soit à la culture, à la justice ou à l'éducation, ne se dit surtout « Ne faisons rien pour éviter de se prendre une grève dans la figure au bout de 15 jours », on se retrouve 30 ans après avec une situation qui est effectivement tout à fait lamentable, et des professeurs qui sont très nombreux aussi à être, par exemple, en arrêt maladie, certains non justifiés évidemment, mais il n'y a pas que cette caricature-là, il y a aussi des gens qui sont vraiment en mal-être au travail au sein de l'éducation nationale, parce que ce qu'ils font n'a pas de sens.
Oui, une question de sens, effectivement, c'est ce qui traverse d'ailleurs tout, à mon impression, tous les corps de métier, spécialement ceux du tertiaire. On croule sous les témoignages de reconversion, sous les envies d'ailleurs. Je crois qu'il y a plus d'un cadre sur deux qui envisage sérieusement de changer de travail, comme des envies d'élever des chèvres dans le Larzac qui prend une grande partie des salariés français. On va faire un point aussi, je profite que vous soyez là, Valentin Gore, puisque vous suivez le dossier avec attention pour Valeurs Actuelles, un point sur la commission sur l'audiovisuel public, puisque Charles Alloncq, le rapporteur Charles Alloncq, est le président de la commission, Jérôme Patrié-Lettus. Jérémy, Patrié-Lettus, ouais. J'avais un doute sur le prénom, sont en train de procéder aux dernières auditions. Donc, c'est terminé. Donc, Daphné Ernot a clôturé en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces centaines d'heures d'audition, Valentin?
Ah bah écoutez, elle tourne encore dans ma tête à plein régime. Non, ce qu'on peut retenir, c'est évidemment des lièvres levés sur certains sujets, comme par exemple sur les frais de cocktail évoqués, qui finalement sont pas vraiment ça, c'était plutôt des paniers sandwich pendant le Covid. Donc il y a beaucoup d'éléments, et ce qu'on relève surtout, j'allais dire, c'est la question du sens, premièrement, que pas grand monde n'évoque, vous venez de l'évoquer pour un autre sujet, c'est à quoi bon un audiovisuel public. Alors d'aucuns veulent le privatiser, c'est une solution, mais en tout cas il faut le réformer, parce que ce qui est certain, c'est que quand on voit la semaine dernière monsieur Nagui, femme, qui présente un karaoké tous les soirs sur France 2 à l'heure où il y a le plus de monde devant la télévision, ça paraît quand même vraiment très 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 loin de ce qu'on peut attendre de l'audiovisuel public. On se souvient sans
4
remonter,
milliards par an, on rappelle,
4 milliards d'euros par an, ce qui équivaut à la moitié du ministère de la Culture, du budget du ministère de la Culture, là où le patrimoine, Charles Alonque le rappelle souvent, c'est 4,75%. Donc il y a sans doute des équilibres nouveaux à faire. Maintenant, on va voir si Charles Alonque, qui s'est révélé, hein, ô combien, parce que c'est vrai qu'on a pu apprécier son style tout en maîtrise, contrairement à ce que ses adversaires veulent lui faire l'affubler d'un espèce de rôle de McCarthy à la française. Moi, j'ai vraiment pas vu ça. J'ai vu plutôt quelqu'un d'assez...
On va parler voilà. De la diabolisation, pardon, de Charles Alonque.
Absolument, absolument. Mais enfin, maintenant, on va voir ce rapport qui, on l'espère, va pouvoir être rendu public à condition que ses collègues le veuillent bien.
C'est toute la question, effectivement, puisque le débat est là. En tout cas, Charles Alonque l'a alerté sur ce sujet. Si la commission décide de ne pas publier de rapport, tous les enregistrements sont supprimés, on perd tout. Toutes ces centaines, ces milliers d'heures de témoignages ne sont plus utilisables, et d'ailleurs rien n'est diffusable sous peine de poursuite. Vendry de Yarpel, vous l'avez aussi suivi cette commission. Qu'est-ce que ça a révélé, notamment les torrents de boue que s'est pris Charles Alonque pendant ces heures?
Bah déjà, ça a révélé une chose, c'est que l'Assemblée nationale pouvait encore servir à quelque chose. Et je crois que les Français se posaient la question avec effectivement toute cette instabilité politique. Là, ils voient une commission d'enquête qui leur parle, parce que l'audiovisuel public, tout le monde paye pour jouir des programmes de l'audiovisuel public. Donc effectivement,
on rappelle que toute institution publique doit rendre des comptes à ses administrés.
Et puis ça a permis aussi effectivement d'avoir vraiment comme un audit, et ça d'ailleurs il faut saluer le travail de Charles Alonque, hein, qui a vraiment travaillé le sujet, on sentait qu'il était vraiment pointilleux sur plein de choses, donc ça l'a révélé effectivement. Maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer les écuries d'Augias, hein, j'ai envie de vous dire.
C'est
pour ça aussi que ça serait une aberration que le rapport ne puisse pas être publié, parce que je rappelle que en fait les membres de la commission pourront avoir accès au rapport, vont le lire dans une salle, ils ne pourront pas prendre de photos, ils ne pourront pas dire ce qu'il y a dedans. Et je crois que les Français exigent de la transparence, surtout sur les comptes publics, et d'autant plus quand on paye un service public qui véhicule des idées qui ne sont pas les siennes, puisqu'on a 40% d'électeurs qui votent à droite aujourd'hui. Et quand on regarde le service public, on tombe sur des horreurs, sur des drag queens, sur... à un moment, pendant la commission d'enquête, Charles Alonque l'a posé la question, alors je ne sais plus à qui c'était, sur un documentaire de Slash TV, sur effectivement qui faisait l'apologie en fait du retour des djihadistes en France. Mais ça, c'est une aberration que les Français payent pour ça. Et je veux dire, s'il ne se passe rien, ça montrerait une seule chose, c'est qu'une caste idéologique de gauche maîtrise encore des canaux de diffusion incroyables aux frais du contribuable.
Est-ce que ce sont des canaux idéologiques pour vous, François Devoyer, ou est-ce que c'est tout simplement une bande de bons copains qui a trouvé une poule aux œufs d'or pour rester dans le domaine du légal?
Un peu des deux, mon général. Non, je rejoins ce qui a été dit par mes deux comparses. En ajoutant peut-être... Moi, j'ai eu un peu de mal et je trouvais que c'était pas très lisible, ces auditions. Donc, oui, bien entendu, très brillant Charles Alonque, un travail incroyable... capacité à lever le loup, à les piquer, à irriter, voire faire sortir de ses gonds ses interlocuteurs, mais je n'ai pas vu où on allait. Alors peut-être que j'ai pas suffisamment suivi tout cela. C'est que ça n'est pas si simple. Comment, que faire de ces gens, j'allais dire. Moi j'ai envie de. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quelles seraient les pistes de réforme? Comment être plus équilibré dans la représentation politique? Est-ce que le service public n'est pas nécessaire tout de même pour proposer justement autre chose que du Nagui, ça nous sommes bien d'accord à cette table, mais des émissions de qualité, des retraitements, je pense aux émissions religieuses par exemple. Je trouve finalement que en noyant les choses dans des polémiques parfois minuscules, on a oublié le principe même de ce que devrait être le service public et quelle direction, quelle orientation on devrait lui donner dans les années qui viennent. Là encore, en fait, on sait très bien que rien ne se passera avant les présidentielles. Mmh. Donc, c'est toujours la même chose. Quel candidat peut se permettre de se mettre à dos tous ces gens qui ne sont pas seuls, parce qu'ils ont aussi leurs commensaux, leurs amis qui ont basculé parfois dans le privé, leur réseau, leur souvenir commun.
Des sociétés de production détenues par des milliardaires.
Exactement.
Qui ont un pouvoir...
Et c'est là où c'est un hydre terrible. Et parfois, j'avais l'impression, c'est que sur les participations dans Mediawan, je ne sais plus combien il y a d'actionnaires, mais c'est délirant. C'est-à-dire qu'à un moment, jusqu'où on va. Et puis... les députés eux-mêmes, y compris dans notre camp, peuvent avoir eux-mêmes des prises de participation dans certains médias, parfois orientés politiquement. J'ai trouvé que ça manquait de lisibilité. Où est-ce qu'on s'arrête? Vers quoi veut-on aller? Qu'est-ce que c'est que le service public? C'est la seule critique que je formulerai. Mais comme vous le disiez, oui, l'Assemblée nationale sert à nouveau à quelque chose. Et oui, effectivement, c'était passionnant à suivre.
C'est vrai qu'on a le maire de Paris maintenant, Emmanuel Grégoire, qui siégeait au comité de surveillance de France Télévisions. On a appris d'ailleurs qu'on avait une députée et une sénatrice qui siégeaient aussi au conseil d'administration du CNC, par exemple. On a évidemment une députée insoumise et une sénatrice socialiste, sinon ce ne serait pas amusant. Il est vrai que... Alors moi, je suis assez d'accord avec vous, je ne sais pas effectivement ce qui peut retirer de tout cela, à part éventuellement des procès et des incitations à rendre l'argent. Mais en tout cas, énormément de lièvres levés et énormément de conclusions en tirées, surtout pour les contribuables et donc pour l'intégralité des Français. Restez avec nous, chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Vendry de Yarpel, Valentin Gore et François Devoyer. Nous accueillons Marie-Lise Chevalier qui va nous parler du statut de l'Alsace. Est-ce que nos amis alsaciens sont tentés par l'aventure Corse? Vous allez y répondre dans quelques instants, mais d'abord un petit message de votre radio et une petite pause.